Alors, je suis heureuse et honorée d'être ici avec vous et je remercie en particulier Axel Triard et Pascal Vervaard, d'abord pour leur invitation et ensuite pour leur enthousiasme. Je me sens privilégiée et j'ai une pensée particulière pour tous les hommes et les femmes qui, dans le monde et aussi même en France aujourd'hui, n'ont pas cette liberté de parole ni même cette liberté de penser. J'ai beaucoup de chance de pouvoir partager avec vous le fruit de plus de 20 ans de recherche. Alors cette conférence a pour titre « Oser le féminin, le chemin de la réussite ». Alors je suis un peu frustrée parce que d'être ici, non pas directement face à vous, mais face à une caméra, si vous étiez là en face de moi, je demanderais à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, ce qu'est pour vous le féminin. Et il y a fort à parier qu'il y aurait autant de réponses que de personnes interrogées. Et pourtant, le féminin est une donnée universelle qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Je crois que le plus simple sera de vous raconter de quelle manière je l'ai découvert et de quelle manière j'ai découvert sa puissance. Je vais vous raconter aussi comment je l'ai approché et ce que j'en ai compris. À 23 ans, j'avais tout pour être heureuse. J'étais journaliste, je présentais les informations à la télévision, j'avais donc un métier prestigieux, pas de problème d'argent, et au dire des hommes, j'étais belle. Et pourtant, j'étais sous antidépresseurs en permanence. Dès que je les arrêtais, je me mettais à pleurer, et le pire de tout, c'est que je ne savais même pas pourquoi. Tant et si bien qu'à l'âge de 30 ans, j'ai fait ma révolution à moi. Et ma révolution à moi, ça a été de me marier et de devenir mère au foyer. Alors pourquoi et en quoi était-ce une révolution? Eh bien parce que j'avais une mère féministe de la première heure qui m'avait éduquée dans des valeurs d'autonomie, d'indépendance financière et de réussite professionnelle. Tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin aux femmes d'autrefois était banni de mon éducation. Je ne devais en aucun cas être vulnérable. À la maison, seul l'intellect avait de l'importance. La seule partie de mon corps qui avait le droit d'exister, c'était mon cerveau. Les émotions, le corps, c'était comme s'il n'existait pas. Un seul mot d'ordre, soit un homme, ma fille. Je parle de ma mère et je ressens envers elle de la gratitude. Si elle n'avait pas été là, ainsi que toutes les féministes d'hier et d'aujourd'hui, je ne pourrais pas être ici avec vous et je n'aurais même pas pu publier mon livre, en tout cas pas sous mon nom. Alors je les en remercie. Et en même temps, ayant été la fille d'une féministe de la première heure, j'ai vécu dans ma chair, avec peut-être 20 ans d'avance, les limites de ce système de fonctionnement. Il y avait quelque chose qui bloquait, qui me bloquait dans ce système et je devais comprendre pourquoi. C'est là que j'ai découvert la grille de lecture des valeurs du féminin et du masculin. Et cette grille de lecture du monde a changé ma vision du monde, a changé ma vision de moi-même, a changé ma relation aux autres et a changé ma vie. Alors, quelques mots sur les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Pour en comprendre la portée et l'importance, il faut savoir qu'à la racine de tous nos comportements, il y a nos pensées. Et qu'à la racine de toutes nos pensées, il y a nos valeurs. Ce sont donc nos valeurs qui conditionnent notre conscience et chacun de nos comportements. On pourrait dire qu'elles agissent sur nos pensées à la manière d'un aimant et orientent, telle une boussole, chacune de nos actions. Les valeurs dites du féminin sont les valeurs qui, pendant plus de 10 000 ans, ont orienté les activités des femmes, autrefois tournées vers l'intérieur. La vie privée et familiale dans ce cadre. Nous avions le droit, par exemple, d'être vulnérables, mais aussi dépendantes, parfois passives, dans la lenteur. C'était même recommandé si nous voulions créer de la confiance, de l'accueil, de l'intimité, de l'amour et du lien. Les valeurs dites du masculin sont les valeurs qui orientaient autrefois les activités des hommes. Tourner vers l'extérieur, la chasse, la guerre, la vie publique. Dans ce cadre, la force et l'action étaient indispensables, ainsi que l'intellect nécessaire à l'élaboration de plans et de stratégies. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo montrant le moment magique de la fécondation, et plus précisément celui de la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. À travers lui, toutes les valeurs du masculin sont représentées. Compétition, vitesse, performance, efficacité et surtout action. Les spermatozoïdes sont près de 500 millions. Un seul sera gagnant. La loi est celle de la sélection. Pendant ce temps, l'ovule est là, présente, immobile, passive. Elle attend. Elle ne fait rien. Est-ce à dire que son rôle est stérile ? La question est si absurde qu'elle prête à sourire. Quoi de plus fécond, au contraire, que cette passivité ? Alors, cette nouvelle grille de lecture me fit l'effet d'une révélation. Je pris conscience que même si pour moi, l'égalité entre hommes et femmes allait complètement de soi, c'était une évidence, je laissais les valeurs du masculin dominer mes pensées et régir l'ensemble de mes comportements. Je devais donc être forte, rapide, efficace, compétitive, dans la maîtrise et le contrôle, être une intellectuelle, indépendante, m'en sortir seule, ne demander aucun soutien. Bref, je continuais de mettre, comme par le passé, tout ce qui était de l'ordre du masculin sur un piédestal. Et toujours sous couvert d'égalité, je continuais, comme les hommes d'autrefois, à dévaloriser, voire à mépriser, non plus les femmes, mais désormais les valeurs du féminin. Je les rejetais. Je ne me donnais droit à aucune vulnérabilité, encore moins de passivité, ni même d'émotion. Je donnais de la valeur à ce que je faisais, à ce que j'avais, pas à ce que j'étais. J'étais donc dans une hyperactivité permanente, dans une toute-puissance qui me faisait régulièrement basculer dans l'impuissance et que je payais sous forme de surmenage et par conséquent de dépression. Je compris enfin pourquoi je pleurais tout le temps. J'étais en guerre contre toute une moitié de moi-même, je vivais dans un déséquilibre permanent. C'est comme si je ne m'autorisais à marcher que sur une seule jambe. J'étais comme handicapée. Je pris conscience que ces deux systèmes de valeurs, féminin et masculin, étaient différents. Ils n'obéissaient pas du tout aux mêmes règles. Ils étaient aussi importants l'un que l'autre. Et que c'était de leur équilibre que jaillissait l'éclosion. Et que c'était de leur équilibre que jaillissait la vie. Et nécessaire à l'éclosion de tout projet ou entreprise. Il était aussi important pour moi de savoir, comme je l'avais été en tant que journaliste, de savoir être efficace, rapide, dans la compétition, que de savoir être dans la lenteur, parfois même juste immobile, présente, par exemple pour savoir écouter, pour me reposer, ou le temps de laisser mûrir un projet avant de passer à l'action. J'étais en train de découvrir qu'il ne suffisait pas que la femme soit l'égale de l'homme en droit. Le problème était encore bien plus profond. Il ne s'agissait plus de lutter pour changer des lois, comme l'avaient fait nos parents. Il s'agissait maintenant de revisiter tout notre système de valeurs et par conséquent nos pensées et tout notre système de comportement. Pendant plus de 10 000 ans, hommes et femmes avaient été strictement séparés. Leurs tâches avaient été séparées. Les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur. Entre ces deux univers, c'était l'apartheid. Ils étaient parfaitement cloisonnés et opposés l'un à l'autre. La pire insulte pour un homme, c'était d'être appelé femmelette. Cela faisait donc plus de 10 000 ans que nous vivions dans un système bipolaire. Et ce système bipolaire et cloisonné avait façonné et structuré tout notre mode de pensée. Je pris conscience donc que je continuais encore aujourd'hui de séparer et d'opposer ces deux univers. Je pensais donc de façon binaire. Soit je me voyais dépendante, soit j'étais indépendante. Soit j'étais dans l'intellect, soit j'étais dans l'émotion. Soit j'étais forte, soit j'étais vulnérable. J'étais soit dans le masculin, soit dans le féminin, et sans cesse blackpoolée entre ces deux extrêmes. Souvenons-nous qu'au début du siècle dernier, une femme comme Colette devait se cacher sous un nom d'homme pour publier ses livres. C'est la première fois, en fait, dans l'histoire de l'humanité, que valeur du masculin et du féminin appartiennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Aujourd'hui, les deux mondes féminin et masculin ne sont plus cloisonnés, bien au contraire, mais nous avons gardé le mode de pensée du passé. Nous avons aujourd'hui le droit de suivre à la fois les valeurs du féminin et du masculin. Nous avons le droit d'être forte et en même temps vulnérable. Nous avons le droit d'être dans l'intellect et en même temps dans l'émotion. Nous avons le droit d'être indépendante et en même temps dépendante. Nous sommes toujours dépendants de ce que nous aimons. C'est justement en cela que réside la clé de notre équilibre intérieur et de notre réussite extérieure. Alors, armée de cette nouvelle conscience, j'ai repris le chemin du travail. Alors, le défi était de taille. J'avais arrêté de travailler pendant 5 ans. Tout le monde me prédisait que je ne retrouverais jamais de place dans le monde du journalisme. J'ai donc pu tester et expérimenter la puissance et l'impact de ce nouvel équilibre entre valeurs du féminin et du masculin dans ma vie professionnelle. Alors, ce ne fut pas du tout une mince affaire, parce qu'il a vraiment fallu que je me rééduque entièrement. Je n'étais pas du tout habituée à ce nouveau mode de pensée et de comportement. J'ai découvert que j'étais une véritable analphabète du féminin. Je l'avais méprisée et rejetée pendant toute ma vie. Et c'était donc comme un nouveau langage que j'avais à apprendre. Alors, je vais juste vous donner 3 exemples concrets. Mais je pourrais vous en donner des dizaines. Alors, une des nombreuses polarités du féminin masculin, faire et être. Autrement dit, faire ce qu'on aime. Faire, valeur du masculin, ce qu'on aime, valeur du féminin, qui appartiennent, je le répète, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Lorsque j'ai repris le chemin de la vie professionnelle, je me suis donc demandé ce que j'avais vraiment envie de faire. Or, j'étais née au milieu des livres, j'avais très envie de devenir critique littéraire. C'était déjà difficile de trouver une place dans le monde du journalisme, mais alors trouver une place de critique littéraire, c'était encore plus difficile. En même temps, je savais que j'en avais l'expérience, la capacité, la compétence. J'étais donc en équilibre féminin-masculin entre l'être et le faire. Et ça a marché. 2e exemple de polarité, dépendance-indépendance. Avant, je voulais me débrouiller seule. Je voulais à tout prix être autonome. Et cette fois-ci, peut-être pour la première fois, j'ai osé demander du soutien à mon entourage. Et en plus, le pire, à ma mère. Ce que je n'aurais jamais voulu faire auparavant. J'avais compris l'importance de la valeur du féminin, qui est le lien, la relation et la puissance d'oser dire sa vulnérabilité. J'ai donc demandé de l'aide et c'est de cette manière que j'ai réussi à rencontrer le chef du service littéraire du journal Elle et il m'a donné ma chance. 3e polarité, plaisir de voir. Quand le journal Elle a commencé à me faire confiance, je devais déjeuner avec la chef du service de presse d'une très grande maison d'édition parisienne. Et là, pour la première fois, je représentais vraiment le journal. C'était donc très important. C'était en quelque sorte ma première sortie officielle. Or, je reçois pour le même jour une invitation au lancement d'une nouvelle collection de livres. Et ça m'amusait beaucoup d'aller à ce cocktail. J'avais très envie d'y aller. Alors, est-ce que j'allais choisir le devoir ou le plaisir? Cela peut peut-être vous paraître évident, mais cela ne le fut pas du tout pour moi. Ça a été un grand dilemme. Et avant, j'aurais choisi le devoir. Là, j'ai choisi l'équilibre, j'ai osé téléphoner à l'attaché de presse pour repousser notre rendez-vous et donc je suis allée à ce cocktail et ça m'a vraiment servi de leçon parce que j'ai rencontré là-bas la rédactrice en chef de Psychologie Magazine qui m'a proposé quelques mois plus tard de travailler pour ce journal. Alors il s'agit bien entendu là aussi de trouver l'équilibre entre plaisir et devoir, pas de passer d'un déséquilibre à un autre déséquilibre. Alors comment faire pour oser le féminin ? La première étape va peut-être vous choquer, surtout si vous êtes une femme. Elle consiste à prendre conscience que nous avons tous, à des degrés différents, appris à ressentir un profond mépris pour les valeurs du féminin. La preuve, si je vous dis que vous êtes dépendante, vulnérable et passive, pense que vous allez sauter au plafond et vous allez croire que je vous insulte. En réalité, notre vulnérabilité, nos besoins de dépendance et de passivité sont de très grandes forces, à condition que nous arrêtions de lutter contre elles, que nous les apprivoisions et que nous réapprenions à les manier. C'est véritablement un apprentissage. Il est temps aujourd'hui de nous les réapproprier. C'est l'acceptation de la réalité qui nous rend puissants. Et la réalité, c'est que nous sommes tous, hommes et femmes, à la fois forts et vulnérables, dépendants et indépendants, dans l'intellect et dans l'émotion. Accepter notre vulnérabilité nous rend puissants. Si j'avais, par exemple, commencé cette conférence en vous disant que j'étais morte de trac, je ne crois pas du tout mais si je l'avais dit, bien sûr, d'une voix suffisamment posée, je ne crois pas du tout que j'aurais été en train de m'affaiblir. Bien au contraire. Il y a fort à parier que j'aurais touché certains d'entre vous qui, du coup, auraient été encore plus ouverts à ce que j'étais en train de dire. Alors vraiment, je répète, cela s'apprend. On ne peut pas, tout d'un coup, après ma conférence, je vous déconseille fortement d'aller dire votre vulnérabilité comme ça, à tout va. C'est vraiment, ça demande un cadre, ça demande un apprentissage, c'est vraiment un nouveau langage. Et c'est la deuxième étape. Dans notre société patriarcale, nous sommes tous aujourd'hui devenus des analphabètes du féminin. Nous avons tous tendance à nous couper de nos émotions. Et à l'inverse, à force de les retenir, eh ben certains d'entre nous, surtout certaines d'entre nous, explosent soudain en colère ou en larmes, sans même savoir pourquoi. Et en fait, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder un vase très rempli. Donc le danger, c'est de passer d'un extrême à un autre extrême et de basculer sans cesse de trop de masculin à trop de féminin. C'est pourtant ce que la plupart d'entre nous continuons de faire. Il s'agit vraiment d'apprendre à écouter, à s'écouter, puis ensuite, dans un deuxième temps, à exprimer son féminin en alliance avec le masculin. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Une chef d'entreprise qui vient me voir parce qu'elle a plusieurs assistants et ses assistants ne lui obéissent pas. Elle donne des ordres et personne ne fait ce qu'elle demande. Et elle ne comprenait pas pourquoi. En réalité, elle ne se rendait pas compte que voulant imiter les hommes, ce que beaucoup d'entre nous, surtout dans les premiers temps du féminisme, avons fait, elle leur donnait des ordres. Et elle était trop autoritaire. Elle était dans trop de masculin. Et il suffit tout simplement de remplacer la formulation « Peux-tu faire ceci ?» ou « Peux-tu faire cela ?» par « Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, faire ceci ?» et « Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, faire cela ?» pour que tout rentre dans l'ordre. C'est juste accepter sa vulnérabilité aussi, et aussi, ça serait trop long de le raconter aussi, le principe d'égalité est une valeur du féminin très forte, et le principe de hiérarchie est une valeur du masculin très forte. Si vous vous faites se rencontrer dans un ascenseur et qu'un ascenseur est bloqué entre la présidente de la République et la femme de ménage, au bout de 2 minutes, elles se raconteront leur vie sentimentale, et elles seront tout à fait à égalité. Alors que les valeurs de hiérarchie sont des valeurs très ancrées dans le monde masculin. Cette grille de lecture des valeurs du féminin et du masculin nous permet d'identifier, de diagnostiquer nos déséquilibres et d'y porter remède. C'est la troisième étape, repérer les déséquilibres. Alors comment faire? La clé, la principale clé est dans notre ressenti. C'est cela qui va nous permettre de l'identifier. Dès que nous ressentons un malaise, une difficulté, une émotion que nous ne comprenons pas, c'est que l'équilibre est rompu. Et la grille de lecture du féminin et du masculin va nous permettre de poser un diagnostic sur ce malaise. Alors comment l'utiliser? Prenons n'importe quelle situation concrète et demandons-nous si dans cette situation précise, nous sommes par exemple dans trop d'être ou dans trop d'avoir. Paradoxalement, si nous avons des problèmes d'argent, et bien peut-être que nous sommes trop focalisés sur l'avoir et pas assez sur l'être. Et ça peut peut-être aussi être le contraire. Dans telle ou telle situation précise, est-ce que nous sommes dans trop d'émotions ou est-ce que nous sommes dans trop d'intellect, dans trop d'action, trop de passivité, trop de raison ou trop d'intuition? Un exemple, si nous présentons seulement une intuition à notre patron, ça risque fort de ne pas marcher. Mais si nous nous contentons d'empiler des tableaux Excel, ben nous risquons de ne pas être très convaincants. Alors l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Quand j'écris « Quand les femmes s'éveilleront », j'avais un rêve, c'est expérimenter la puissance de ce nouvel équilibre dans l'entreprise. Pourquoi l'entreprise? Et bien tout simplement parce que les chiffres ne mentent pas. Or, début 2010, un cabinet de coaching est venu me trouver, après avoir lu « Quand les femmes s'éveilleront », pour incarner ce nouvel équilibre dans l'entreprise. Et pendant 6 ans, nous avons formé plus de 700 dirigeants, dont la plupart du CAC 40. Et je peux témoigner qu'oser le féminin, en équilibre bien sûr, je le répète, avec leurs valeurs du masculin, a permis à la plupart d'entre eux d'augmenter leur chiffre d'affaires, de retrouver une cohésion d'équipe ou de grimper dans la hiérarchie. La phrase qui revenait le plus souvent à la sortie de nos, nos séminaires, c'était « J'ai retrouvé la sérénité ». Au travail, nous, les femmes, nous avons cru longtemps que pour réussir, nous devions nous comporter comme les hommes. C'était peut-être vrai dans les premiers temps du féminisme. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous s'y sont épuisés. C'est ce qui se passe quand nous sommes coupés des valeurs du masculin. Nous pouvons être d'excellents professionnels, mais à force de professionnalisme, oublier notre humanité. Nous nous sommes coupés, surtout nous les femmes, de ce qui faisait notre identité. Nous sommes trop souvent devenus des robots. C'était en tout cas mon cas. Dans la première partie de mon existence, j'étais véritablement devenue un robot. Aujourd'hui, c'est à une réconciliation avec nous-mêmes à laquelle je nous invite. Et cette réconciliation est une véritable révolution. Alors pas une révolution à l'ancienne, collective, qui veut tout changer d'un coup et se termine dans un bain de sang, non. Ce que je nous propose, c'est une révolution tranquille, pas à pas, dans la lenteur, une personne à la fois, et elle commence par chacun et chacune d'entre nous. Merci de m'avoir écoutée.